On est venu pour rendre un culte à notre Dieu ce soir. On est venu pour passer un temps dans sa présence. Et ce temps dans sa présence, nous voulons lui consacrer ce moment à 100%, non pas à 50%, mais on veut être là à 100%. D'accord, frères et sœurs ? Voilà. Et en étant là à 100%, ça permet à Dieu, le Seigneur Jésus, il a dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là à 50%. Non, il a dit, je suis là au milieu d'eux. Et c'est la place qu'il veut occuper, non seulement ici, mais aussi dans notre cœur. Si ce soir, il n'est pas au centre de notre cœur, ça ne sert à rien d'être là. Il vaut mieux aller marcher, faire un tour, mais ne pas rester là. Pourquoi ? Parce que vous ne serez pas à 100%. Et il faut être à 100%. Voilà. Et être à 100%, ça veut pas dire qu'on fait de l'autosuggestion, tout va bien. Non. On dit, je veux être là, Seigneur, à 100% avec toi. Et je mets de côté mes préoccupations, ce qui me préoccupe l'esprit, le cœur. Je mets ça de côté parce que je ne veux pas passer à côté de ce que tu as pour moi ce soir. Et je crois vraiment que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous. Et comme je prends comme exemple souvent, l'arrosoir divin n'arrose pas que le milieu. Mais ça arrose aussi, il y a des petits trous partout, pour que quand l'eau tombe, ça fait joli, mais en réalité, ça arrose tout le monde. Et ce soir, le Seigneur, Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, qui est là, va agir pour disposer vos cœurs à écouter la parole de Dieu. Et le recevoir avec douceur. Il faut que notre cœur, qu'il y ait de la douceur dedans, qu'on reçoit la parole avec douceur. Parce que si on ne la reçoit pas avec douceur, elle est tellement puissante, elle peut nous détruire. C'est une épée à double tranchant, n'oubliez pas. Et cette parole, une épée à double tranchant, si notre cœur, il y a de la dureté, il y a quelque chose qui fait barrage, cette parole peut nous cogner. Et il vaut mieux que notre cœur soit bien disposé en disant, Seigneur, s'il te plaît, dispose mon cœur à recevoir ta parole, à l'écouter, mais aussi à la recevoir avec douceur. Alors ce soir, j'aimerais partager avec vous, j'ai deux pensées que grâce à vos prières, bien sûr, pour ceux qui prient maintenant, je ne demande pas à ce que tout le monde prie pour moi, je sais qu'il y en a un qui prie, c'est Jésus. Voilà. Et ça, il est, je peux compter sur lui à 100 et vous avec. Parce que moi, je peux vous oublier, mais lui ne m'oublie jamais. Moi, je peux être infidèle, mais lui demeure fidèle. Voilà. Alors, je compte sur sa fidélité, sur sa bonté, sur sa grâce, et qui, en me tenant devant lui, j'essaye de faire en sorte d'aller chercher le meilleur. Parce que Moïse n'est pas monté à mi-hauteur. Il est monté tout là-haut, là où Dieu lui avait donné rendez-vous. Pour quelle raison ? Parce que c'était tout là-haut qu'il devait recevoir les tables. Vous êtes d'accord avec moi ? Et la manne ne tombait pas ne sortait pas d'en bas. La manne sortait du ciel. Et quand quelque chose vient du ciel comme la manne, c'est quelque chose de merveilleux, c'est bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. Ça veut dire que le serviteur de Dieu, peu importe, avant de venir devant le peuple de Dieu, lui-même se tient devant Dieu, il devient comme un livre ouvert, il n'est pas parfait, il n'est pas mieux que vous, mais Dieu, dans sa bonté, dit, voilà, je vais mettre dans ce vase-là, qui n'est pas parfait, quelque chose pour mon peuple. Parce que souvent, on pense que les hommes de Dieu, c'est des hommes avec des auréoles derrière la tête. Faut arrêter. C'est des hommes, comme disait Élie. Élie était un homme de la même nature que nous, confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes. Mais la Bible nous dit qu'il a prié et Dieu l'a exaucé. Vous voyez ? Ça veut dire quelque part que Dieu, il regarde à quoi ? Il regarde à notre cœur. Il s'arrête sur notre cœur. Et s'il voit qu'on est sincère avec lui, il nous secourt, il nous fait grâce. Et ce soir, nous ne sommes pas des gens parfaits. Sans Christ, sans Jésus dans notre vie, nous ne faisons pas le poids sur la plateau de balance de Dieu. On ne fait pas le poids. Mais ce qui nous permet de faire le poids devant Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et ne vous inquiétez pas si je dis « le » pour « là », la pensée est quand même donnée. D'accord ? Pour ceux qui parlent très bien le français, ne vous faites pas de soucis, le Saint-Esprit vous fera comprendre ce que vous devez comprendre. Alors, celui qui est appelé à donner la parole, normalement, il se tient dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, comme Moïse, il attend que Dieu lui donne sa pensée. Il n'amène pas la pensée qui lui vient, mais il attend de recevoir la pensée de Dieu. Parce que l'homme de Dieu ne connaît pas les difficultés de tous. Par contre, Dieu connaît tout ce à quoi vous êtes confrontés. Et quand vous venez devant le peuple, quand vous venez devant Dieu, Dieu dit, voilà, mon peuple est là. Mon peuple a des besoins multiples. Mais moi, l'Éternel, son Dieu, je connais tous ses besoins. Alors je vais saisir mon serviteur. Vous le croyez ? J'ai pas entendu. Je vais saisir mon serviteur. Vous le croyez ? Ça veut dire que si moi je décide d'aller à gauche ce soir, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, si je suis ouvert et sensible, il me dit, tu vas à gauche et tu vires à droite, la rue qu'on appelle la droite, et là tu trouveras un homme. Attention, c'était précis. Ça veut dire que le Saint-Esprit connaît les chemins des cœurs. Il sait que c'est à droite qu'il faut prendre, après à gauche, et après une porte. Non, tu ne frappes pas la deuxième porte, tu frappes et tu rentres. Ça veut dire que Dieu ce soir connaît les besoins de votre cœur. Moi, je ne les connais pas. Par contre, je me suis tenu, j'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, c'est ton peuple, ce n'est pas le mien. Ce sont mes frères et mes sœurs, et tu connais leurs besoins. Alors, inspire-moi, donne-moi une parole pour ton peuple. Et ce n'est pas dans la longueur, ni dans les phrases, les effets de manche. Vous savez, qu'est-ce que l'apôtre Paul il dit quand il est venu à Corinthe ? Il dit, moi, quand je suis venu chez vous, moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était Christ, mais Christ crucifié. Voilà la simplicité de ce qu'il voulait. Et c'est ça, en réalité. Le but de notre rassemblement, c'est quoi ? Le but de notre rencontre, c'est qui ? C'est Jésus. Vous enlevez Jésus, ça ne sert plus à rien qu'on soit là. On devient un club de rencontres. Mais quand vous mettez Jésus, Jésus détruit le sens de rencontre comme titre de rencontre, et Jésus donne à ce mot rencontre une autre saveur. On vient rencontrer Dieu et Jésus-Christ. On vient pour l'adorer, pour le louer. On vient aussi pour nous rencontrer les uns les autres. Parce que nous sommes membres les uns des autres. Et ce soir, peu importe votre titre dans le monde, peu importe ce que vous êtes dans le monde, ce soir, nous sommes tous frères et sœurs. Vous avez enlevé votre étiquette, vous avez enlevé votre manteau de ce que vous êtes dans le monde. Vous rentrez pas en tant que DRH, en tant que... voilà. Mais vous rentrez en tant que frères et sœurs. C'est-à-dire, on est tous. Dieu nous regarde tous parce qu'il y a Jésus en nous. Et c'est le fait que Christ habite nos cœurs que Dieu nous regarde. Si Dieu ne regardait pas son peuple Israël dans le désert, si Dieu n'avait pas le regard sur son peuple, je peux vous dire, Balaam, qui était mandaté pour maudire le peuple, n'aurait pas vu les qualités du peuple de Dieu. Mais parce que le peuple de Dieu, c'est un peuple de qualité, un peuple d'hommes et de femmes courageux, courageuses, un peuple qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Eh bien, quand Balaam a été mandaté par Balak, il ne pouvait pas voir le défaut, parce qu'il n'y avait pas de défaut. Et pourtant, Dieu savait. Murmure, il se lamentait, il regrettait de quitter l'Égypte. Vous voyez tous les défauts qui apparaissent dans le peuple. Mais Dieu ne le voyait pas. Vous voyez, quand le monde nous regarde, le monde, quelque part, essaie de trouver la faille. Et quelquefois, nous lui donnons l'occasion de trouver la faille chez nous. Mais quand Dieu nous regarde à travers Christ, il nous voit parfaits. Et c'est ça le privilège que nous avons ce soir, c'est que les anges nous regardent en tant qu'êtres humains parfaits. Pourquoi ? Parce qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus-Christ, qu'il y a 2000 ans, a payé le prix à la croix du calvaire. Et ça, le sang de Jésus nous a lavés, purifiés, et il nous a habillés de sa sainte justice. Ce qui fait que ce soir, nous pouvons entrer. Nous n'avons pas besoin de présenter à Dieu nos connaissances, nos dons, notre argent, nos cartes bancaires. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu, par Jésus, nous a donné une libre entrée. Et pour ceux, nous n'avons rien fait pour cela. Jésus a dit, Père, tout est accompli. Nous nous appuyons totalement sur l'œuvre du calvaire pour pouvoir, devant Dieu, que Dieu nous regarde avec bienveillance, avec faveur, et ne nous tue pas. Parce que beaucoup seraient déjà morts si Dieu nous regardait en dehors de Jésus. Si Dieu nous regardait comme il regardait son peuple dans l'Ancien Testament, beaucoup seraient frappés. Mais béni soit Dieu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'il est entré, il a traversé le tabernacle, qui n'a pas été construit de mains humaines. Mais dans le ciel, il y a un temple. Jésus est rentré, comme le temple de Jérusalem, mais qui est là-haut dans le ciel. Il est rentré dans la présence même de Dieu, dans le Saint des Saints. Il est venu avec son propre sang. Il a dit, oh Dieu, voilà, je viens avec ce sang-là, c'est mon propre sang. C'est un sang qui est pur. Et la Bible nous dit qu'il a fait la purification des lieux célestes. Mais aussi, la Bible nous dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Caïn a tué son frère Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, justice, vengeance, justice. Mais le sang de Christ, vous savez qu'est-ce qu'elle dit devant Dieu ? Grâce, miséricorde. Grâce, miséricorde. Pourquoi ? Parce que c'est un sang qui est pur. Et ce soir, c'est lui que nous sommes venus adorer. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre ce chant, parce que Christ est ressuscité. Jésus-Christ est vivant. Les gens vont fêter religieusement l'ascension, Pentecôte, et on va peut-être prêcher un message sur l'effusion du Saint-Esprit. Nous vivons la résurrection de Christ il y a près de 2000 ans déjà. Alléluia! Nous vivons non pas avec un mort, nous vivons avec le vivant et le ressuscité. Et qui nous a fait cette promesse, je suis au milieu de vous. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Et nous sommes là ce soir au nom du Seigneur Jésus. Alors il nous fait l'honneur. Il nous fait l'honneur d'être là. Et puisqu'il est là, que devons-nous faire ? Le maître est là. Jésus arrivant à Béthanie, il rentre dans la maison des sœurs Marthe et Marie et de Lazare. Que fait Marie ? Boum ! À ses pieds. Elle ne bouge plus. Alors quand le maître est là, qu'est-ce que nous faisons ? Plus rien autour ne nous intéresse. Le parfum du frère de la sœur, la coiffure, la façon de s'habiller, ses gestuels, ça ne nous intéresse pas parce que Jésus est là. Et ce qui nous intéresse, c'est ce qui va sortir de sa bouche. Parce que ce qui sort de sa bouche, l'Écriture nous dit que la parole qui sort de la bouche de Jésus et de Dieu, quand elle sort, elle court avec rapidité. La parole que Jésus a dit à ce monsieur qui a envoyé un de ses serviteurs parce que son fils était malade, quand Jésus a dit « Va », il est guéri. Vous savez, quand Jésus l'a dit, le lendemain, quand les hommes sont venus apporter la nouvelle au monsieur, le monsieur a dit « Mais à quelle heure Jésus a dit cette parole ?» Ils ont dit « Aux alentours de 13 heures. » Enfin, je vous donne ça comme ça. Et le monsieur a dit « C'est exactement à cet instant-là que mon fils a été guéri. » Et Jésus était à des kilomètres. Jésus était très loin. Ça veut dire la parole. Alléluia. Cette parole, elle est vivante. Elle est créatrice. Elle est là ce soir. Elle porte un nom. Elle s'appelle Jésus-Christ. Alléluia, frères et sœurs. Cette parole porte un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Et puisque cette parole, elle est créatrice, elle est vivante, elle est puissante, alors ce soir, ne nous exposons pas, ne mettons pas un cœur dur, mais demandons à Dieu un cœur docile. Parce que cette parole, comme elle est vivante, elle est puissante, elle peut nous faire beaucoup de mal, comme elle peut nous faire du bien ce soir. Elle est sortie de la bouche de Jésus avec rapidité. Elle a doublé le monsieur qui était venu demander de l'aide à Jésus de la part de son maître. Elle a été là où ce garçon, cet enfant était malade. Elle est rentrée dans son corps. Elle a chassé le mal. Elle a remis debout cet enfant. Elle est revenue à Christ, alléluia, ayant accompli ce pourquoi elle avait été envoyée. Frères et sœurs, Jésus est venu dans le monde, non pas pour faire du plaisance, faire du tourisme. Il est venu mourir à la croix. Il est venu porter nos péchés. Il est venu se substituer à nous. Et il est reparti vers Dieu. Avec qui? Avec nous, frères. Christ, en mourant sur la croix, la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités, les dominations, les esprits méchants. Il les a traînés derrière son char triomphal. Et il les a mis publiquement, exposés publiquement, en spectacle à la croix. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un mauvais esprit qui a échappé à la victoire de Jésus. Quand il pensait que Christ, il se réjouissait en disant « ça y est, c'est fini, il est mort, on a mis la lance sur son côté pour voir s'il était vraiment mort », il était déjà mort. Du sang et de l'eau a coulé de son côté. Et une fois qu'on a constaté qu'il était mort, mes amis, le monde des ténèbres se sont réjouis. Il y avait une fête en enfer. Le diable, les démons, ils étaient contents. Ils disent « ça y est, on a fini avec lui. Ça y est, on a fini. » Mais pendant qu'ils pensaient que Jésus s'était fini, la Bible nous dit que Jésus a été dans le séjour des morts, prêché à ceux à l'égard desquels Dieu, du temps de Noé, usait de patience. Et je peux vous dire, quand Jésus est retourné dans le séjour des morts, il n'y a pas été physiquement, il y a été avec son esprit. Eh bien, je peux vous dire, devant chaque être humain qui entendait parler de la grâce, ils acceptaient. Et nous serons étonnés de voir dans le ciel des personnes. On sera étonnés. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Dieu est amour. Et il veut que quand, par exemple, nous passons devant son trône, personne n'a à dire « Oh, que tu es injuste, oh Dieu !» Je n'ai jamais entendu parler de ça. Dieu dira « Non !» Tous diront « Tu es juste. » Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. On n'aura que la bouche fermée quand nos vies passeront devant le trône comme ça. On n'aura qu'à dire « Oui, tu es juste. » Et on se prosterne et ta sentence est juste. On donnera raison à Dieu et à Jésus dans leur jugement et dans leur sentence. Frères et sœurs, c'est pour cela que ce soir nous sommes du côté du plus fort. Nous sommes du côté de Jésus. Et celle et celui qui est rentré ici dans cette salle et qui a encore une jambe comme ça et l'autre jambe comme ça, il doit ramener les deux du côté de Jésus. Il vaut mieux se mettre de son côté que de clocher un jour comme ça et un autre jour comme ça. Parce que vous ne savez pas, ça c'est mystérieux, c'est Dieu qui l'a gardé secret pour lui, vous ne savez pas quand Jésus reviendra. Dieu l'a gardé secret pour lui. Et Jésus aurait pu dire, je suis le Fils de Dieu, je sais moi aujourd'hui glorifié à la droite de Dieu, et Dieu moi-même, je sais quand est-ce que je dois revenir. Jésus a dit non. Même les anges dans le ciel ne savent pas. Alors si dans les temps futurs, vous qui aimez aller sur Internet, et vous écoutez un prédicateur qui dit, Jésus sait quand est-ce qu'il reviendra, et même il m'a fait rentrer au ciel, il m'a montré l'enfer, il m'a montré le paradis. Et le gars, quand il revient, on a l'impression qu'il n'a jamais vu le ciel. Quelqu'un qui voit le ciel, même celui qui est à la porte de la mort, et que Jésus dit à la mort, retire-toi, je veux que cette personne revienne au monde, sur cette terre, la personne déjà, quand elle revient, elle n'est plus la même. Elle ne vit plus pareil, puisque elle était tout proche de passer de l'autre côté, elle a vu, comme on dit, une lumière, Et la lumière lui a dit, non, non, tu retournes. L'apôtre Paul, qui a été ravi au troisième ciel, cet homme de Dieu, il dit, j'ai vu des choses que je ne peux même pas, le langage humain ne peut pas l'expliquer. C'est impossible. Tellement qu'il a été ravi au troisième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu, là où Dieu est. C'est là où se trouvent nos frères et sœurs qui se reposent, ils sont dans la gloire. Et Paul a eu le privilège d'avoir été ravi, il a été emmené dans ce troisième ciel, le ciel de Dieu. Et quand il revient, il a dit, j'ai vu des choses que je ne peux même pas dire. Alors vous voyez qu'aujourd'hui, sur Internet, beaucoup de gens disent, j'ai vu l'enfer, j'ai vu la fin du monde, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Permettez-moi de mettre un doute, même un gros doute. Parce que, quelque part, un homme ou une femme qui fait cette expérience-là, il va parler peu. Et il ne va pas chercher à faire le buzz des millions de vues pour ceux des chrétiens et des chrétiennes qui sont curieux, qui aiment, sont friands de ces choses-là. Elle ou il ne va pas chercher à faire le buzz. Il va chercher, au contraire, non pas à exposer ces choses, mais à garder ces choses secrètes. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui viennent du ciel. Et le Seigneur dit, ne donnez pas vos perles. Alors ça, c'était juste en passant, pour que vous puissiez avoir un regard un peu neuf sur ce que vous voyez, ce que vous entendez. Enfin, pour ceux qui sont qui vont sur les réseaux. Et je sais que depuis le Covid, ceux qui n'aimaient pas, ils sont devenus experts en cuisine et en écran. Ils ont appris à faire à manger, ils ont appris à aller sur Internet. Enfin bref, c'était la parenthèse, et nous plongeons maintenant dans les choses de Dieu. J'y suis déjà dedans. Alors nous prenons la parole de Dieu dans Marc. Pendant que je vous parle, je laisse le Seigneur me dire, tu vas aller à droite. Bon, c'est extraordinaire, comme je ne sais pas comment je fais, mais c'est comme ça. Alors, nous allons faire un petit voyage ensemble, avec, non pas tout seul, mais on va voyager avec Jésus. Vous le connaissez en tant que quoi, mes frères et sœurs ? Sauveur et Seigneur, Fils de Dieu. Il était quoi ? Il faisait quoi comme métier ? Ah, voilà ! C'est pour ça, vous le connaissez en tant que quoi ? En tant que Fils de Dieu, Sauveur, mais aussi et Fils Charpentier. C'était quelqu'un qui travaillait le bois. Il a grandi avec un beau-père qu'on appelle Joseph. Et Joseph, c'était un charpentier. C'est des métiers qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Ces métiers manuels, charpentier, menuisier. Et le bois, Jésus connaît ce que c'est que le bois. Il connaît l'odeur du bois. Il connaît les qualités du bois. Il connaît un bois de qualité, un meuble Ikea et un meuble chez Monsieur Confort. Il connaît la qualité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi connaître ce qui est de qualité et ce qui n'est pas de qualité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit à un moment donné, mon peuple a commis un grand péché. Pourquoi ? Parce que le peuple de Dieu ne savait pas discerner ce qui était précieux de ce qui était aujourd'hui encore. Il y a un manque de connaissance des valeurs spirituelles. Je m'explique. Aujourd'hui, c'est le grand marché aujourd'hui qu'on voit. Vous m'avez compris, sur les écrans. Je n'ai pas de problème avec les écrans pour ceux qui disent « Mais pourquoi il parle toujours ?» Je parle des écrans. Bon. Et c'est le grand marché. C'est-à-dire, quand vous avez besoin de quelque chose, un sujet d'entendre parler de quoi que ce soit concernant la Bible, vous tapez, vous faites un clic et vous avez tout ce qu'il faut. Mais comment vous pouvez discerner ou apprécier ce qui est précieux, ce qui est de Dieu, ce qui est de la parole de Dieu, et ce qui est vil, ce qui n'est pas de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de faux semblants, en fait de factices, comme on dit, d'imitation. C'est ce qu'on dit. Vous achetez un sac Louis Vuitton à 15 euros qui ressemble, mais au millimètre près, au sac Louis Vuitton que vous trouvez dans le 8e qui coûte 2000 euros. Et les gens qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas, ils disent, ah, il est beau, ce sac, il est magnifique. Et vous jouez Louis Vuitton ou Chanel. Mais si c'est un connaisseur, tu dis non, ça c'est du toc. Et l'Écriture dit, tel fait le riche, mais est pauvre. Le chrétien aujourd'hui que nous sommes, nous devons, dans les temps que nous vivons, savoir discerner ce qui est de la parole de Dieu et ce qui est qui n'est pas de la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont enrober ce qu'ils disent avec la parole. Mais quand vous creusez, c'est pas la parole. Et il faut le discerner, ça. Avant même de le manger, de l'écouter, si ça ressemble à la parole de Dieu, et si ce n'est pas la parole de Dieu, vous devez même pas le mettre dans la bouche de votre âme. Vous devez même pas toucher cette chose. Même pas l'écouter. Parce que ça aura un effet sur votre âme destructeur. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont malades spirituellement parce qu'ils ont mangé sans discerner. Ils disent, oui, elle est bonne cette parole, mais elle fait du bien. Même si ça vient d'une femme qui prêche, il dit, mais ça fait du bien. Mais où ça fait du bien? Où c'est que tu as vu ça, mon frère, ma sœur? Si déjà la base, elle n'est pas à sa place, mais normalement, si vous écoutez une femme prêcher, même si quand elle prie, des démons sont chassés, même si quand elle prie, un paralytique marche, un aveugle retrouve la vue, un sourd entend, même si vous voyez un mort ressuscité, si c'est une femme qui prêche, et ça je voudrais que ça soit enregistré, que ça soit écrit et que ce soit répandu. Je vais me faire beaucoup d'ennemis. Non, on va discuter après. Ça veut dire que même si vous voyez tout ça, vous devez rejeter ce qu'elle dit. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein. Amen. Je ne veux pas d'amen de frères, je veux les amen des sœurs.
Amen.
Amen. Normalement, je veux entendre un amen qui me fait trembler avec une voix d'homme. Eh ben, normalement, mes sœurs, vous devez rejeter ça. Pourquoi je dis ça? Parce que on ne peut pas bouger ce que Dieu a mis comme fondement. On ne peut pas bouger ça, frères et sœurs. On peut essayer de tergiverser. Et Paul dit à Timothée, Timothée, ne rentre pas dans des discussions, ne pars pas dans des discussions avec ces personnes. C'est des gens qui emmènent le trouble. Et c'est vrai. L'Église est divisée parce qu'il y en a qui croient que les femmes ont le droit de prêcher et d'autres qui croient que l'homme, la femme, n'a pas le droit de prêcher. Voilà, l'Église est divisée. On se divise sur une parole, sur quelque chose qu'on voit. Mais sur le fond, quand on vient sur le fond, quand on prend les Saintes Écritures, c'est ce que Dieu dit qui a priorité sur tout. Et quand Dieu parle, tout le monde ferme la bouche, on obéit et c'est tout, c'est comme ça. Alors pourquoi on discute encore? Mais pour revenir à ce que je disais, il faut aujourd'hui que nous sachions discerner ce qui est de Dieu, précieux, parce que tout ce qui vient de Dieu est précieux, et ce qui est vil, ce qui vient des hommes. Plus que jamais, frères et sœurs. Parce que l'adversaire va donner à cet homme, l'Antichrist, un tel pouvoir. Un pouvoir qu'aucun pasteur ni prophète n'a eu dans ce monde. C'est d'opérer des prodiges et des miracles. Des choses extraordinaires. Et vous savez qui vont suivre ce monsieur? Ce sont ceux qui courent après ça. Et qui n'ont aucun fondement. Qui n'ont pas de racines. Qui vivent au jour le jour, qui vivent par les éphémérides et les messages qui sont derrière les éphémérides. Il y a le verset et vous lisez derrière. C'est un message qui a été mâché, remâché, re-remâché. Mais c'est pas de la manne fraîche. Dieu veut, pour nous, chacun d'entre nous, que nous prenons sur nous et que chaque jour, nous allons devant lui et nous disons, Seigneur, toi le divin boulanger, donne-nous le pain vivant, le pain frais qui vient du ciel. La manne était fraîche chaque matin. La manne d'hier pourrissait parce que le soleil, une fois que le soleil était levé dans le désert, agissait sur la manne et pourrissait. Il fallait se lever tôt. Celui qui ne serait, le fainéant, le paresseux, ne mangeait pas. Il fallait qu'il se réveille tôt le matin pour aller chercher sa part. Eh ben, Dieu a un problème avec ses enfants, c'est qu'il trouve chez nous de la paresse. On s'appuie sur les messages du passé. Ce message ce soir, le partage que j'ai avec vous, une fois que je dirai Amen, c'est consommé. La date de péremption, c'était aujourd'hui à 8h, pile, c'est fini. Après, si vous le mangez, ça n'a plus la même saveur. Vous comprenez pourquoi, quand on enregistre là-haut, ça ne sert pas à grand-chose ? On a trouvé des raisons en disant, oui, c'est pour ceux qui ne sont pas là. Dieu ne parle pas aux absents. Quand on te sert un repas et que tu n'es pas là, exactement quand Jésus était venu, quand les disciples étaient enfermés dans cette pièce, par peur des Juifs, après la résurrection, bien sûr, après la crucifixion, il fallait être présent. Thomas n'était pas présent. C'est pour ça que Jésus est revenu pour lui, spécialement pour lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, avec toutes ces histoires qu'on enregistre, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Quand on prend la parole de Dieu, quand on prend Romains chapitre 1er, de la manière que Paul parle des efféminés, des homosexuels, alors aujourd'hui, ici, on n'a plus le droit d'en parler. Ça veut dire que Paul, à l'époque, pouvait parler librement, et aujourd'hui, parce que tout est mis sur les réseaux sociaux, et il suffit que vous touchez à un cheveu de ces personnes, tout de suite, vous avez 10 avocats, et vous avez les menottes, et vous êtes à Fleury-Mérogis. Et personne ne viendra me ramener des oranges. Mais tout le monde dira « Amen, Alléluia !» Oui frère, c'est bien ce que tu dis. Mais écoutez bien, plus ça ira, plus le monde, plus Satan fait en sorte que les vrais chrétiens, le chemin devient de plus en plus étroit. Vous comprenez ? Et il n'y a pas grand monde, dit Jésus, qui y passe. Plus le chemin devient étroit, moins il y a du monde qui arrive à marcher en groupe. Vous me suivez ? Ça veut dire quoi, frères et sœurs ? L'Écriture nous dit ceci. Le psalmiste disait « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon... » Et un sentier n'est pas grand, c'est pas un chemin. C'est juste un petit chemin comme ça. Il n'y a pas grand monde qui y passe. Ça veut dire que, mes frères et sœurs, que plus on va aller vers les temps de la fin, pour pouvoir rendre témoignage exactement comme l'Écriture le dit, il va falloir être debout et solide et ne pas avoir peur de souffrir pour la cause de Christ. Et aujourd'hui, on est nombreux, on dit « Amen ». Mais demain, le chemin devient étroit et resserré. En haut du gouvernement, on fait passer une loi en disant « Maintenant, interdiction de parler publiquement, de dénoncer que l'homosexuel, c'est quelque chose qui est en abomination aux yeux de Dieu. » Qui osera en parler ? Celui ou celle qui osera en parler, c'est celui qui n'a pas peur de souffrir pour Christ. Et c'est là que le tri se fera. Beaucoup de gens suivaient Jésus. Et quand Jésus a commencé à expliquer ce que ça veut dire manger ma chair et boire mon sang, le tri a été fait en moins de deux. Beaucoup sont partis. Et Jésus se tourne vers ses disciples, les 12 qu'il avait passé toute une nuit à prier pour les choisir, que Dieu lui dit « tu prendras celui-là, celui-là ». Jésus se tourne vers eux. Il dit « et vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Vous voulez pas aussi faire comme les autres, partir ? Et qui ouvre et prend la parole ? Pierre. Il a pris la parole plusieurs fois pour rien dire, des fois. Mais des fois, il a pris la parole pour emmener à ce que Jésus dise quelque chose qui nous parle aujourd'hui. Pierre dit, « Seigneur, tu veux qu'on aille où ?» On était dans la galère, excusez-moi l'expression, j'étais un pêcheur avec mon frère, je tenais la société de mon papa. Tu es passé, tu m'as dit de venir, j'ai rien d'autre. Je ne vais pas retourner à ce que j'ai lâché, vomi. Je ne vais pas retourner en arrière. Ça fait des mois que je te suis déjà, tu veux que je m'en aille maintenant ? Non Seigneur, je ne peux pas te laisser. Pourquoi ? Pas parce que tu as fait des miracles, ou que tu as multiplié les pains et les poissons, mais parce que tu as les paroles. Quand je t'écoute, Jésus, tes paroles ne sont pas les paroles des pharisiens, des hommes religieux, des rabbins de l'époque. Mais quand je t'écoute, mais tes paroles me font un bien énorme. Je ne peux pas supporter d'aller ailleurs. Tu as, toi, Jésus, les paroles de la vie éternelle. Pouvons-nous le dire ce soir en écoutant la parole, si nous la recevons avec douceur? Pouvons-nous dire ce soir, Seigneur, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 à passer ailleurs, à faire les boutiques, à partir je ne sais où. Une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Pourquoi une heure dans tes parvis? Parce que dans la présence de Dieu, frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer les effets que la parole de Dieu a sur votre âme. Un bienfait. Oui, ta parole me fait du bien. Et parce que ta parole me fait du bien, Seigneur, je ne veux écouter aucun autre maître que toi. J'ai su qu'en t'écoutant, tous les autres que j'ai écoutés avant toi, c'est du n'arrive même pas à ta cheville. Mais toi, le maître, tu as les paroles de la vie éternelle. Alors pourquoi, frères et sœurs, nous sommes encore des enfants insatisfaits? Si nous avons goûté que Dieu est bon, pourquoi allons-nous chercher ailleurs? Pourquoi lui faisons-nous des infidélités? Pourquoi? Si nous avons goûté qu'il est bon. Si vous avez goûté que le restaurant d'à côté est bon, invitez tous vos amis, donnez-leur la carte, envoyez une photo de WhatsApp. Parce que vous avez goûté que le repas qui se faisait là était bon. Et vous voulez que les autres en profitent? Eh bien, nous avons goûté que Jésus est bon. Nous avons goûté que Dieu est bon. Alors nous ne voulons pas être ailleurs. Nous ne voulons pas lui faire des infidélités en allant chercher ailleurs ce que nous avons ici. Toute parole de Dieu qui passe par la bouche d'un homme est déjà consommée. La facilité des chrétiens aujourd'hui, c'est d'aller écouter des messages sur les réseaux sociaux. Je ne fais pas une généralité, je dis des chrétiens. Quand je dis ça, c'est plus facile d'aller écouter quelqu'un prêcher que toi-même de prendre un temps pour lire la parole de Dieu. Bien souvent, Dieu voudrait qu'on prenne un temps pour nous courber, pour prendre notre tête et nous plonger notre tête, même si tu ne sais pas nager, même si tu ne sais pas faire de l'apnée, mais c'est le Saint-Esprit qui te fera l'apnée. Mais il prendra ta tête comme un chat et il plongera ta tête dans sa parole. Que tu le veuilles ou non, il te dira, regarde, ouvre tes yeux, regarde les trésors. Ce que tu ne peux pas voir ailleurs, c'est dans ma parole. Vous voyez que vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Que Dieu voulait vous montrer, vous révéler, vous parler, vous donner. Mais c'est parce que vous ne l'avez pas voulu. Vous n'avez pas accepté l'autorité du Seigneur sur vous. Le joug, vous ne l'avez pas accepté. Parce que le joug que Jésus met sur vos épaules, c'est un joug qui est doux. C'est un joug qui vous emmène avec douceur à aller en profondeur des choses de Dieu pour découvrir combien Dieu est bon. Le voulons-nous ce soir, frères et sœurs? Il le fera. Il te saisira. Quand tu seras à la maison ou je ne sais où, tu sentiras que le Saint-Esprit te poussera en disant « Laisse ce que tu fais. Va te mettre, va lire ma parole. » Si tu le fais, tu vas commencer peut-être à 9 heures de la lire et tu verras à 1 heure de l'après-midi, tu seras encore dedans. Ça passe tellement vite quand tu es dans sa présence. Et c'est pour cela que quand la Bible nous dit que Moïse est resté 40 jours sur la montagne, pour lui, ça a été comme un jour. Parce que dans la présence de Dieu, tu ne penses plus à manger, ni à boire, ni à regarder les séries télé, ni à téléphoner un tel, ni à envoyer un SMS. Tu ne penses plus à ces choses-là. Tu penses qu'à lui, tu es là. Comme figé. Et quand il te dit, tu dis oui Seigneur. Il dit, regarde-moi. Et là, il commence à te donner, à te nourrir. Et comme les abeilles, quand tu sors dans sa sainte présence, tu es comme ça. Tu as plein de pollen partout. Et tu descends, tu peux même distribuer à tes frères et sœurs. Un homme ne peut donner que... Et quand il doit le recevoir, c'est dans la présence de Dieu. Jésus était charpentier. Il était fils de charpentier. Il connaissait le bois. Il connaissait la qualité du bois. Et il savait aussi qu'un jour, sur ce même bois, il allait être crucifié. Et c'est pour cela qu'il a dit aux femmes qui pleuraient, qui se frappaient, il disait, femmes, ne pleurez pas sur moi. Parce que si on fait cela au bois vert, lui, Jésus, le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? C'est-à-dire vous qui n'avez pas la vie. Qu'en sera-t-il de vous qui m'avez rejeté, Israël? Ne pleurez pas sur moi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus, la Bible nous dit qu'il était charpentier, mais fils de charpentier. Il connaissait la qualité du bois. Il savait travailler le bois. Il savait quand il faisait, il passait, comment on appelle ça, le rabot, pour donner une justesse dans le côté lisse du bois. Il sait quoi enlever dans notre cœur, les croûtes, pour que notre cœur devienne doux et lisse. Comprenez ça, frères et sœurs. Lui, le divin charpentier, il sait comment faire. Il sait comment manier le marteau, le rabot, ces instruments que le charpentier utilise. Il le sait, ça. Eh bien, quand il commence à travailler nos vies, bien souvent, ça fait mal, mais nous devons lui dire, vas-y, Seigneur, continue. Parce que ce mal, ça produit un bien en moi. Ça détruit le vieil homme, et ça fait grandir la nouvelle nature. Gloire à Dieu. Alors, prenons la parole de Dieu. J'y suis déjà dedans, frères et sœurs. Hein, je vous ai dit que je me laissais conduire. Alors, dans Marc, chapitre 4, c'est un texte qu'on prend souvent lorsque on évangélise quelquefois. C'est un texte qu'on prend et qui nous parle d'une traversée, vous voyez, d'un voyage. C'est Jésus qui, ce jour-là, il a dit à ses disciples, on va passer de l'autre côté. On va aller de l'autre bord. Et on sait qu'en arrivant de l'autre côté, il y avait ce gadarénien possédé avec des dizaines de démons en lui et qui le tourmentait cet homme. Et la suite, on le connaît. On sait que cet homme, quand Jésus a chassé ce légion, eh ben, il était assis dans son bon sens, vêtu et dans son bon sens. Avant, il n'était pas habillé et il n'était pas dans son bon sens. Mais là, il était dans son bon sens. Alors, nous faisons une lecture dans chapitre 4 et au verset 38. Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Jésus leur dit aux disciples, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait, il y avait aussi d'autres barques avec lui. C'est-à-dire autour, il y avait les barques qui suivaient Jésus, il y avait la barque où était Jésus, mais il y avait d'autres barques autour qui étaient là, sur le lac, sur la mer, et qui étaient là. Au verset 37, il s'éleva un grand tourbillon. Voilà qu'il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Ce grand tourbillon, soudainement qui s'est levé, est-ce que cela a troublé Jésus? Loin de là. Jésus n'a pas été troublé par ce grand tourbillon, mais il me semble que dès que Jésus est monté dans la barque, l'Écriture nous le dit après, que lui, Jésus, qu'est-ce qu'il faisait? Il dormait. Et ça, c'est merveilleux d'avoir quelqu'un comme Jésus. Logique, on fait une traversée, il est assis à un endroit stratégique dans la barque, et en plus de cet endroit stratégique, c'est pas quelqu'un d'autre qui est assis à sa place, la Bible nous dit qu'il dort. À peine rentré dans cette barque, Jésus a été se mettre assis à la poupe, il s'assoit, et puis la Bible prend le soin de dire qu'il y avait là, dans cette barque précisément, il y avait un coussin. Alors, vous voyez bien que ce coussin devient très intéressant parce que la virgule dans la Bible, Jésus dit « pas un seul iota de ma parole disparaîtra ». Ça veut dire que même la virgule dans la Bible a son importance. Et là, le coussin, là, ce jour-là, avait son importance. Et nous allons essayer de comprendre c'est quoi ce coussin. Parce que comme vous l'avez déjà lu cette histoire, vous vous êtes pas posé la question en disant « mais un coussin, normalement c'est sur un canapé, c'est quand tu conduis, tu as mal au dos, tu le mets derrière ton dos, le coussin. Mais là, dans une barque, qu'est-ce que ce coussin fait là ?» On va essayer de trouver la réponse à cette énigme. Ce soir, je ne vous emmène pas à Fort Boyard, mais ce soir, nous sommes au 275 avenue Doménine. Et si quelqu'un peut me dire, c'est quoi ce coussin? Alors ça va partir de tous les côtés. Alors je vais demander à deux frères et deux sœurs de me dire, c'est quoi le coussin? Ok, je vois que j'ai plus de connaissances que vous. Alors, on va aller un peu plus loin. J'ai noté ceci. Même dans la tempête, Dieu donne un moyen et un lieu de repos profond. Mon frère, ma sœur, même si tu es dans la tempête, Dieu a prévu un lieu et un lieu de repos profond. C'est-à-dire, la tempête peut faire rage autour de toi, même dans ta vie, tu peux être touché, mais tu es tranquille. Tu es dans un repos, mais un repos tellement profond, que tout ce qui se passe autour, ce que les médecins te disent, ce que les frères et sœurs te disent, est-ce que la famille te dit, ce que les gens pensent, tes amis, tes copains, ça ne te fait ni chaud, ni... Merci. Et voilà que rentre en jeu ce fameux coussin. La Bible nous dit que Jésus, quand on s'arrête un petit peu, il dit, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. C'était une barque qui commençait à se remplir d'eau. Et lui, on pourrait dire tranquillement, profondément, dormait, où ça? À la poupe. Où, comment? Sur quoi? Sur le coussin. Voilà le coussin qui arrive. Et je peux vous dire, entre dormir sur un morceau de bois et dormir sur un coussin, ou entre dormir sur un matelas gonflable et dormir sur le parquet, c'est deux choses différentes. Vous dormez sur le parquet, vous avez mal au dos le lendemain. Vous dormez sur le coussin ou sur un matelas gonflable, ça va. Et là, ce fameux coussin, on pourrait mettre à côté le coussin de la foi. Vous ne m'encouragez pas ? C'est pas grave. C'est pas grave, moi je m'encourage moi-même. C'est le coussin de la foi. Pourquoi ? J'essaie de m'expliquer. Dans psaume 4, et je vais vous donner le verset une fois que je vais le trouver avant vous. Le psaume 4, cherchez le psaume 4. Allez, dépêchez-vous. On va parcourir la parole de Dieu un peu. Allez, le psaume 4. J'entends déjà mon frère Marc qui me dit « Oui, 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 lui il est déjà dedans, mais il n'a pas le droit de parler. » Alors, que nous dit le psaume 4 au verset 8? Le psaume 4 nous dit au verset 8 « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont, quand abonde leur froment et leur mou. » Et là, il dit au verset 9, « Je me couche et je m'endors agité. » Alors dites-le, frères et sœurs. « Je me couche et je m'endors. » Jésus a dit, « Je vous donne ma paix. » Et cette paix que je vous donne, c'est pas comme le monde. La paix que donne le monde est troublée. Aujourd'hui, le monde dit, « Tout va bien. » Demain, vous êtes troublé en entendant « Guerre en Ukraine ». Vous dites, « Mais comment ça se fait ?» Le trouble. Vous voyez la paix du monde ? Mais la paix qui vient de Jésus, c'est une paix qui vous met dans un repos profond. Jésus était tranquille dans la barque. La tempête s'est levée, il ne s'est pas levé en disant « Qu'est-ce qui se passe ?» Il n'était pas en panique, le Seigneur. Même dans la tempête, il sur le coussin. Pourquoi ? Parce que Jésus savait que sa mort sur la terre n'était pas une mort noyée. Il était venu pour souffrir sur un morceau de bois, la croix du calvaire. Il savait comment il devait mourir. Lui, Jésus, sait comment il devait mourir. Est-ce que vous savez, vous, comment vous allez quitter la terre ? Personne ne le sait. Par contre, lui, il le savait. Il savait que c'était pas « Ah, Jésus est mort noyé !» Quand quelqu'un meurt noyé, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas d'effusion de sang, puisque l'Écriture nous dit « Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Il fallait que Christ meure sur une croix, crucifié par des clous, avec la couronne d'épines et les coups qu'il a reçus, afin que le sang qui sortait de lui, de son corps, ce sang-là, puisse nous purifier, nous laver et nous pardonner. Amen. Christ ne devait pas mourir noyé. Il devait mourir à la croix du calvaire. Et là, l'Écriture nous dit, « Je me couche et je m'endors en paix. » Car, souvent, nous disons ce verset le soir, enfin, quand on doit se quitter tout à l'heure, un frère ou va prier, il dit, « Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix. » Mais si vous saviez combien cette parole, elle est vivante, et combien quelquefois, quand vous vous apprêtez à dormir en paix, si vous mettez le coussin du doute sur votre tête, toute la nuit va être agitée. Si vous mettez votre tête sur le coussin de l'incrédulité, vous allez tout perdre et passer à côté de la grâce de Dieu. Mais si vous prenez le coussin de la foi et vous posez votre tête dessus, alors vous êtes en paix et en repos. Parce que la Bible nous dit que Dieu veut que celui ou celle qui s'approche de lui, qui s'approche avec foi. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. La foi, l'apôtre Paul le dit, il disait, Timothée, je vais m'en aller, mais j'ai pas gardé de l'argent, mon manteau que j'ai demandé de me ramener, ni les écrits, mais j'ai gardé la foi. Et c'est ça qui nous ouvre la porte du ciel, c'est la foi. Peu importe que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, Dieu veut que si tu dois quitter la terre, tu quittes la terre avec une foi pleine et totale en lui. Amen, mon frère, ma sœur. Et quelle que soit la tempête, l'épreuve, si c'est le cancer que Dieu permet qui t'emmène, si c'est je ne sais quoi comme maladie qui t'emmène, qui te fait quitter la terre, tu dois quitter la terre en ayant une foi ferme en ton Dieu et en ton Sauveur. Amen, frères et sœurs. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ça, c'était le psaume 4 au verset 8 pour avancer. Si nous nous reposons sur le coussin de la foi, voilà ce que dit l'Écriture, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Jésus, tout Jésus qu'il était, il était obligé tous les jours d'avoir une pleine confiance en son Père. Et je peux vous dire, il n'a jamais douté une seconde de ce que son Père lui disait. Jamais. Il avait une foi totale en son Père. Si nous nous reposons sur le coussin de la foi, l'Écriture nous dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Lui, Jésus, il dormait sur le coussin. Et ce n'est pas souvent dans la Bible que nous voyons que Jésus dort. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pas souvent qu'on entend dire Jésus dormait. C'est rare. Jésus, s'il y a un homme qui dormait pas, c'était bien lui. Par contre, les disciples, ils dormaient. Pendant que Jésus était à la montagne, sur la montagne ou dans les déserts en prière, il passait des nuits. Les disciples dormaient. Quand il arrivait au petit matin, il dit « Bonjour les enfants, alors, ça va ?»« Ah, mais Seigneur, tu es déjà debout ?»« Ah ben oui, j'ai pas dormi de la nuit. » Oui, parce que Satan te réclamait. Mais comment tu pourrais faire si moi j'intercède pas pour toi? Et comment pourrions-nous faire si Jésus n'intercède pas pour nous? Pendant que nous roupillons, que nous ronflons, que nous occupons largement le lit, le Seigneur est en train de prier et intercéder en notre faveur. Et il le dit dans la parole de Dieu. Je vais vous le dire de suite. Dans le psaume 121, pendant que nous dormons, regardez ce qu'il fait. C'est le psaume 121, j'ai dit, hein, au verset 4, même le verset 1er. Je lève mes yeux. Ah, vous le connaissez bien ce psaume parce qu'il est court. Il n'y a que 8 versets. Si je vous dis le psaume 119, vous commencez à roupiller. Je lève mes yeux vers. Le psalmiste, il dit, d'où me viendra le secours? Il pose la question. Et la réponse qu'il a, il dit, le secours me vient. Qui a fait? Il ne, chose que l'adversaire a utilisée pour Jésus, il ne permettra point que ton pied, celui qui te garde, qu'est-ce qu'il fait? Il dort la nuit? Voilà. S'il y a quelqu'un qui veille, c'est bien Jésus. S'il y a quelqu'un qui veille sur nous pendant que l'adversaire tourne autour de notre maison ou de notre vie en disant « je vais te tuer ce soir », quand il dit « je vais te tuer », quand il essaye de rentrer, c'est Jésus dit « où tu vas ?» C'est vrai. C'est pour ça quand les chrétiens nous disent « oh, vous savez, cette nuit j'ai été attaqué ». Oui, tu as le droit d'être attaqué. C'est pour te réveiller, pour combattre. Mais la Bible nous dit que tu dois lui résister avec une, vous voyez la foi, une foi ferme, le coussin encore de la foi. Il faut lui résister. Et il fuira loin, pas juste dehors de la porte, hein. Et après tu entends frapper au sonnet, hein. Mais loin, très très loin de toi. Parce que la foi le fait fuir loin de toi. Ta foi. Et là, le Seigneur dit, voici, il ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Christophe. Arrêtez de dire Israël, aujourd'hui je suis plus un Israélite, moi. Je suis un Israélite céleste. J'ai été circoncis de cœur, pas dans la chair. Vous imaginez que demain, je dis, tous les frères doivent se faire circoncire. Et sans anesthésie. Les sœurs, vous commencez à rigoler, arrêtez, hein, s'il vous plaît. Mais là, circoncis de cœur, frère. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans notre cœur. Il sépare la chair de ce qui est de l'esprit. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui veille sur toi, mon frère, ma sœur, pour que tu puisses, ton sommeil soit un sommeil profond, si tu t'endors dans le doute, dans l'agitation, ta nuit va être agitée et tu vas te réveiller aussi fatigué que tu t'es endormi. Mais si tu te couches sur le coussin de la foi, tu dis, Seigneur, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, tu me donnes dans ma... Amen. Et ça, quand tu t'endors avec ça, frères et sœurs, ton sommeil est profond, paisible, et tu te réveilles même à 5 heures du matin, avant ton réveil, pour pouvoir te jeter aux pieds du Seigneur Jésus, pour lui dire merci. Combien d'enfants de Dieu ont le sommeil troublé? Combien de chrétiens qui s'endorment avec l'inquiétude en se grattant la tête? Ils se réveillent, ils grattent de l'autre côté. Ils s'endorment, ils regrattent d'un autre côté. Et ainsi de suite comme ça. Ils accumulent les soucis, les inquiétudes. Et tellement que les choses prennent de l'ampleur, ça devient comme un mur qui en réalité, ils parlent à Jésus, mais ils ne voient plus le Seigneur. Ils ne voient que leurs difficultés, les problèmes devant eux. Et pourtant, derrière ce mur, il y a le Sauveur. Jésus les entend, mais ne les voit plus. Eux entendent Jésus, mais ne le voient plus. Mais le Seigneur ne veut qu'il y ait aucun mur qui se dresse entre lui et nous. Vous comprenez, frères et sœurs? Le Seigneur ne veut pas ça. Et parce que nous nous endormons en paix, et parce que lui, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Au verset 5, l'Éternel est celui qui... Mon frère, ma sœur, l'Éternel est celui qui te garde. Encore une fois, l'Éternel est ton... Où ça? Pourquoi pas ta main gauche? Parce que Jésus est assis. Amen. Il est ton ombre à ta main droite. Regarde de temps en temps côté droit du trône de Dieu. Tu verras Jésus assis à la droite de Dieu, glorifié, ressuscité. Et il te dit, ne t'inquiète pas, mon enfant, je suis ton avocat auprès du Père. Je plaide en ta faveur. J'ai prié pour toi cette nuit. Normalement, c'était fini pour toi. Mais j'ai demandé à Dieu de patienter à ton égard. Quelle grâce, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut le louer. Et qu'une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. L'Éternel est ton ombre à ta main droite, dit le psalmiste. Pendant le jour, écoutez bien, le soleil, quand vous êtes à l'ombre d'un arbre, quand il fait très chaud, vous mettez à l'ombre d'un immeuble, est-ce que le soleil vous frappe? Dites-moi, s'il vous plaît. Non? Vous êtes dans le désert, vous trouvez un arbre, vous vous mettez à l'ombre en disant, ah, quelle fraîcheur, un peu de fraîcheur. L'Éternel est ton ombre à ta main. Quand nous sommes dans le désert de la maladie, le désert de l'épreuve, le désert de l'incompréhension, de l'injustice, nous ne devons pas aller faire justice par nous-mêmes, mais nous devons nous tenir à l'ombre du Tout-Puissant. Amen, frères et sœurs. À cette ombre-là, notre désir de vengeance et de justice est tari. Quand on se tient à l'ombre du Tout-Puissant, tout désir de vengeance et de justice est tari. Comprenez bien ma pensée ce soir, frères et sœurs. Je vous l'ai dit, hein, je veux me laisser conduire par Dieu. Je ne suis pas un enseignant. Mais je bénis Dieu parce qu'il m'apprend sur le terrain à nourrir son peuple et à me nourrir moi-même avec. Bénissez-le pour ça. C'est pas moi. Toute la gloire est pour lui. on ne veut tirer aucune gloire en disant « Ah, le frère !» Non, non, toute la gloire est pour lui. Il dit « L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. » Et il y a ce soleil brûlant. Jésus avait marché toute une journée. Il était fatigué, érincé. Tellement qu'il était fatigué, il avait soif. La Bible nous dit « Jésus eut soif ». Non seulement sur le calvaire, mais quand il se met assis sur la margelle du puits d'eau, alors là, il avait envie de boire l'eau de ce puits bien fraîche. Mais il a préféré aller chercher l'eau de son puits, de son cœur, pour désalter la soif de cette femme. Jésus a fait passer le besoin de cette femme avant ses besoins à lui. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Et tellement que cette femme a été nourrie, désaltérée, rassasiée, elle a oublié sa cruche et avec l'eau, parce que son cœur avait été désaltéré. Et ce soir, vous pouvez tout oublier. Vos cruches dans lesquelles vous mettez tant de choses, soucis, problèmes, inquiétudes, mettez ça de côté. Oubliez ça, parce que Dieu remplit notre cœur ce soir. La Bible dit de nous que nous sommes des vases. Et dans ces vases, Dieu a mis quoi ? Un trésor. Et le Seigneur, ce soir, remplit ce vase du Saint-Esprit. Alléluia ! Et comme ce vase est rempli du Saint-Esprit, alors vous voyez que la vie de l'Esprit parcourt nos membres et la maladie, l'insomnie, la dépression prend la fuite au nom de Jésus. Alléluia, frères et sœurs ! Gloire à Dieu ! Oh là là, il est déjà 8 heures. Vous êtes sérieux, c'est ça? Ou il y a quelqu'un qui a touché au réveil? Alors je m'arrête. Franchement, je lis et j'arrête. On prend la Sainte-Seine, d'accord? L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune. Comment la lune peut frapper quelqu'un? Vous avez vu la lune frapper quelqu'un pendant la nuit? Non. C'est pour nous montrer que là, il faut comprendre le sens. Ça veut dire que pendant la nuit, c'est pendant la nuit que l'adversaire, le monde des ténèbres, se met en action. Et là, même pendant le jour, quand le soleil frappe excessivement, l'adversaire veut nous cramer, veut nous brûler par ses rayons bizarres, de mauvaises pensées, il veut nous bloquer. On a quelqu'un à la droite de l'Éternel est ton ombre à ta main droite. À la droite du trône de Dieu, nous avons quelqu'un qui va faire écran au soleil. À la droite du trône de Dieu, nous avons quelqu'un qui va faire écran à toutes les attaques nocturnes de l'adversaire. Tu dis amen, mon frère ? Je ne le savais pas avant de venir, hein, mais le Seigneur me le donne en même temps que vous. Vous voyez que c'est pas à moi, mais à lui soit toute la gloire. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel, au verset 7, dites-le. Vous avez vu? Pas d'une catégorie, mais de? Dites-le. L'Éternel. Dites-le encore une fois. Alléluia. De tout mal. Mon frère, ma sœur, si par manque de connaissance, tu subis les rayons du soleil et les attaques nocturnes de l'adversaire, là, en confessant cette parole, tu te redresses. Alléluia. Alors je le confesse avec vous. L'Éternel te gardera. Il gardera ton âme. Parce que c'est ce que le diable veut. C'est ton âme qu'il veut. Lui qui n'a jamais créé d'âme, lui, il se délecte des âmes, des hommes et des femmes qui refusent Jésus. Il se nourrit de ces âmes. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a créé l'âme. Il se nourrit de ça. Et c'est pour ça que David disait à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie. » Alléluia. Il parlait à son âme. J'ai le droit de parler à mon âme. Je dis, « Mon âme, tu arrêtes de te plaindre. Bénis le Seigneur Dieu. » Amen. Il dit, « L'Éternel gardera non seulement ton âme, mais l'Éternel gardera ton... » Tout à l'heure. Et pour ceux qui partent en vacances, Dans l'avion, si tu es le seul chrétien, tout le monde est protégé. On peut dire l'avion prend des trous d'air, et il peut faire tout ce qu'il veut dans le ciel, il ne s'écrasera jamais. Parce que tu es dans l'avion. Tu dis amen à ça?
Amen.
Alors tu vas le vivre pendant cet été. Prophétie. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant, et à, et à, et à, alléluia. On va se mettre debout pour se détendre un peu devant Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole.